Docteur Ted Hildebrand, Louange dans le livre 2, session 1. Contexte canonique. Copyright 2024 Ted Hildebrand. Il s'agit du docteur Ted Hildebrand dans son enseignement sur la louange de Dieu dans le deuxième livre du Psautier. Il s'agit de la première séance, le contexte canonique du livre 2 du Psautier. Bon après-midi. Nous explorons une sorte de mini-série de conférences sur la louange de Dieu dans le deuxième livre du Psautier. Il s'agit essentiellement des psaumes 42 au psaume 72. Il s'agit d'une extension d'un article que j'ai écrit pour Kriegel et qui sera publié en 2018 intitulé The Biblical Foundation of Worship. Merci de vous joindre à nous. En guise d'introduction, je vais lire beaucoup de choses car cela vient de l'article du livre. Nous commençons par une description du contexte canonique du livre 2 en termes de ses caractéristiques et de son flux en tant qu'unité. Ensuite, nous examinerons les trois personnages principaux du livre des psaumes, le roi, le psalmiste et l'ennemi. L'ennemi perfide se moque, fait honte et cherche à piéger, dévorer et détruire le psalmiste. Le psalmiste crie à la délivrance et à la protection. Le roi divin ou humain sauve, protège et rend justice. Le psalmiste loue ensuite le roi divin. Le contexte cultuel du deuxième livre sera également examiné comme un contexte dans lequel la louange de Dieu s'exprime dans le temple à travers des sacrifices et de la musique au sein de la congrégation festive. Nous démontrerons ensuite que la lamentation est souvent motif de louange et que même l'imprécation est fréquemment liée à la louange. Ensuite, les louanges elles-mêmes seront examinées dans une discussion sur l'appel à la louange, la raison de la louange, la manière de louer et la place de la louange. Enfin, ces présentations se termineront par quelques implications pour le culte moderne et la louange de Dieu dans le deuxième livre du Psautier. Et maintenant, voici l'introduction. J'aurais dû cliquer sur le bouton au fur et à mesure, mais nous parlerons du contexte canonique du livre. C'est notre mini-présentation pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous passerons aux trois personnages principaux, le roi, le psalmiste et l'ennemi. Le contexte cultuel des psaumes est particulièrement nous le verrons dans le livre 2 du Psautier. Nous ferons des lamentations comme base de louange. Ensuite, nous suggérons également cette imprécation comme base de louange. Ensuite, après avoir fait cela, nous examinerons les louanges elles-mêmes, l'appel à la louange, la raison de la louange, la manière de la louer et la place de la louange. Et enfin, notre septième présentation portera sur les implications pour le culte moderne. Ce ne sont donc que des introductions. Et puis nous voulons parler maintenant du contexte canonique du livre 2 du Psautier. Le titre hébreu du livre des psaumes s'appelle Tehilim, ce qui signifie simplement louange. Et vous connaissez déjà ce mot car il est construit à partir d'une racine appelée Hallel, un mot que nous avons entendu plusieurs fois. Alléluia. Et donc c'est louer Yah ou louer le Seigneur. Le livre des psaumes est parallèle à la Torah ou au Pentateuque par sa division en cinq livres. Et donc, ces livres, si vous regardez ceci, nous pouvons voir que le premier livre est le chapitre 1 à 41 des psaumes, en grande partie des psaumes davidiques. Livre 2, un deuxième recueil de David, du psaume 42 au psaume 72. Le troisième livre est le psaume 73 au psaume 89 et le livre 4 de 90 à 106. Et enfin le livre 5, le psaume 107 au psaume 150. Chaque livre est marqué de marqueurs de louanges conclusifs, puis également d'un double amen. Et donc, c'est ainsi que nous connaissons l'unité dans laquelle le livre s'est arrêté et a continué. Comparez les derniers versets suivants de chacun des livres. Et donc, ce que j'ai fait, c'est d'extraire chacun des versets de clôture. Ainsi, voici, par exemple, la fin du premier livre et c'est le chapitre 40, verset 13. Il dit, « Louange à l'Éternel, le Dieu d'Israël d'éternité en éternité. » Amen et Amen. Et c'est ainsi que se termine le premier livre. Et ainsi, vous pouvez voir que si vous affichez le livre 2, le livre 2 se termine au chapitre 72, verset 20 et il dit, « Louange à l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait des actions merveilleuses. Louange, et vous avez une autre louange. » Il s'agit donc ici d'un double éloge. Soyez à son nom glorieux pour toujours. Que la terre entière soit remplie de sa gloire. Amen et Amen. Et puis, en fait, le psaume 72.20 se termine par ceci. Ceci conclut les prières de David, fils de Jessé. Et c'est ainsi que se termine le deuxième livre, une fin très claire. Ceci conclut les prières de David. Livre 3, similaire, vous avez la fin dans le psaume 89, verset 52. Loué soit le Seigneur pour toujours. Amen et Amen. Alors que l'on termine par un double Amen et une louange. Livre 4, similaire, chapitre 106 verset 48, louange à l'Éternel, le Dieu d'Israël d'éternité en éternité. Que tout le monde dise « Amen ». Louez le Seigneur. Et donc, vous obtenez un seul « Amen ». Et puis enfin, le livre 5 se termine par le psaume 150, qui est le dernier psaume. Et le psaume 150 contient ensuite une litanie de louange au Seigneur, « Louez le Seigneur, louez le Seigneur ». Et puis ce qui se passe à la toute fin, c'est que vous obtenez le mot final de tout le psautier, « Louez le Seigneur » ou « Alléluia » est le dernier mot du livre du psautier. Cette étude examinera les caractéristiques et le caractère unique de l'adoration de Dieu dans le livre 2 du psautier, du psaume 42 au psaume 72. Nous nous concentrerons donc uniquement sur le livre 2. Ces livres sont d'ailleurs parallèles à la loi mosaïque. Il y a donc 5 livres de la Torah. Et donc ici, nous avons 5 livres parallèles aux psaumes. Les psaumes furent à nouveau développés avec les psaumes de David. David date d'environ 1000 ans avant J.C. et les derniers psaumes seront exiliques ou post-exiliques vers 586 environ ou un peu après 586. Le livre des psaumes a donc été rédigé sur une période d'environ 400 ans. Donc examinez les caractéristiques du livre 2, mais il y a en grande partie 5 livres du Pentateuque mosaïque. Et il y a ensuite une réponse de 5 livres des psaumes. Les titres davidiques dominent le premier livre. Donc les titres des chapitres 3 à 41 qui sont en grande partie des titres davidiques. C'est ce qu'on appelle la première collection davidique. Cependant, il y a un peu plus de diversité dans le livre 2 avec un deuxième recueil davidique, dans les chapitres 50 à 70. Mais dans le deuxième livre, dans les premiers chapitres 42 à 49, nous avons les fils de Corée. Et ces fils de Corée se retrouvent au numéro 16 où le sol s'ouvre et engloutit Corée. Mais apparemment, plus tard, c'était des prêtres qui étaient impliqués dans une sorte d'adoration de type psalmique, une adoration sectaire là-bas. Ainsi, les psaumes 42 et 43 sont liés. 43 est en fait un psaume orphelin. Et qu'est-ce qu'un psaume orphelin? Un psaume orphelin est un psaume qui n'a aucun titre. Et dans la paire d'ouverture, la paire de psaumes, le refrain, « Pourquoi mon âme es-tu abattue? Pourquoi es-tu si perturbé en moi? Mettez votre espérance en Dieu car je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Et ce refrain de « Pourquoi es-tu abattu ?» mon âme se trouve au chapitre 42, verset 5, chapitre 42, 11, et aussi dans 43, 5 reliant les chapitres 42 et 43 dans ce que j'appellerais une paire de psaumes. Ainsi, les psaumes 42 et 43 forment une paire de psaumes semblables aux paires que l'on trouve dans les chapitres 1 et 2 du psaume ou dans les chapitres 9 à 10 du psaume. Les psaumes 42 à 43, 44 et 45 sont appelés tous masquiles. Ainsi, 42, 43, 44 et 45 sont tous des masquiles ou des psaumes pédagogiques. Les psaumes 42, 43 à 49 portent tout le titre du directeur musical. Et donc, ces titres relient ceci de 42 à 49. Il y a un psaume d'Asaf dans le psaume 50 qui est très probablement extrait de la collection Asaf. La collection Asaf comprend les psaumes 73 à 83. Alors pourquoi le psaume 50 est-il ainsi retiré de la collection Asaf même s'il s'agit d'un psaume Asaf? Cela est dû en grande partie à son lien thématique avec le psaume 51 adjacent du livre 2. Dans le psaume 50, Dieu n'a pas besoin de leur sacrifice puisqu'il possède le bétail sur 1000 collines. Dans le psaume 51, David offre le bon sacrifice d'un cœur brisé et contrit. Il y a donc un contraste entre les différents sacrifices entre le psaume 50 et le psaume 51 où David offre un bon sacrifice, qui est un cœur brisé et contrit. Les psaumes 51 à 70 sont appelés le deuxième recueil davidique. Alors laissez-moi voir si j'ai compris. Nous avons le masquil pour le directeur musical et nous devrions probablement y revenir et y réfléchir. Je suis désolé, je devrais appuyer sur le bouton. Mais en grande partie, le psaume 50 d'Asaph est un psaume d'Asaph qui est mis en avant en raison de son lien avec le psaume 51. Le psaume 50 est le psaume très célèbre selon lequel il possède le bétail sur 1000 collines. Et cela est placé dans un contexte où, fondamentalement, Dieu n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de votre nourriture. Je n'ai pas besoin de vos sacrifices comme nourriture. Si je voulais de la nourriture, je l'ai, je possède le bétail sur 1000 collines. David dit alors que c'est ainsi qu'on offre un bon sacrifice. Et c'est un peu là où nous en sommes. Maintenant, David offre un bon sacrifice et les psaumes 51 à 70. Voyons si j'ai ceci. Ouais, ça y est. Psaume 51 à 70. Nous avons le deuxième, ce qu'on appelle le deuxième recueil davidique. Et encore une fois, le titre du directeur musical est prédominant dans 51 à 62 et 64 à 70. Le psaume 71 est un psaume orphelin. Et c'est essentiellement une prière pour que David ne soit pas abandonné dans sa vieillesse. Et puis le psaume 72, c'est plutôt intéressant. Permettez-moi de revenir aux notes ici. Le deuxième livre se termine par un psaume du roi Salomon, le fils de David, et la déclaration conclut les prières du fils de David, Jessé. Ce que vous avez dans le psaume 71, c'est essentiellement David, qui est un vieil homme faible à ce stade, qui dit, Seigneur, ne m'abandonne pas dans ma vieillesse. Et puis, quelle est la réponse entre le psaume 71 et le psaume 72? Salomon le reprend en grande partie avec le roi Salomon dans le psaume 72. Il y a donc un mouvement similaire ici entre le psaume 71 et le psaume 72. Nous avons le deuxième, 1 à 70, ce qu'on appelle le deuxième recueil davidique. Et il y a ensuite une réponse de 5 livres du Pentateuque mosaïque. Cation pour le culte moderne et la louange de Dieu. Les titres davidiques dominent le premier livre. Et donc, fondamentalement, ce que vous avez, c'est le premier roi et le premier roi où Dieu parle de la faiblesse et de tout ça. Donc, vous voulez probablement noter ce lien entre le psaume 71 où David est faible et où Dieu prie Dieu de ne pas l'abandonner, et le psaume 72 où Salomon reprend alors ses forces et sort pour la justice et le règne en tant que roi. Très, très similaire à un roi où David est faible et il est Abishag et toute cette situation se produit. Et Salomon reprend ensuite dans un roi les chapitres 2 et 3. Ainsi, le livre 3 présente les psaumes d'Asaph et ce sont les chapitres 73 à 83. Et ensuite, ce que j'aimerais examiner, c'est ce qu'on appelle le psautier éloïstique. Le psautier éloïstique va du psaume 42 au psaume 83. Cette désignation est née de l'observation de l'utilisation peu fréquente du nom divin Yahweh. C'est pourquoi on l'appelle le psautier éloïstique, car Yahweh n'apparaît que 27 fois dans le deuxième livre. Yahvé est traduit Seigneur, L majuscule, O majuscule, R majuscule, D majuscule. L'augmentation de l'utilisation d'Elohim, Elohim est traduit par Dieu en 131 fois. Ainsi, vous avez 27 fois Yahweh, ce qui est très minime dans les psaumes, jusqu'à 131, ce qui est énorme dans le livre des psaumes. Le psautier éloïstique est le psaume 42 à 83. Cela contraste avec le rapport de 5 pour 1 entre Yahweh et Elohim dans le reste du psautier. Autrement dit, dans le reste du psautier, Yahweh est utilisé 5 fois, et Elohim, Dieu n'est utilisé qu'une à 5 fois pour Elohim. Il s'agit donc de Yahweh utilisé 260 fois et d'Elohim utilisé environ 56 fois. Il y a alors un tableau que je veux faire et en quelque sorte avoir une idée de cela. Voici les livres 1, 4 et 5 en faveur de Yahweh à raison de 6 contre 1. Et puis les livres 2 et 3 favorisent Elohim environ 6 contre 1. Il y a donc une nette différence et c'est pourquoi on l'appelle le psautier éloïstique parce que le nom Elohim est présenté dans ce livre. Maintenant, je veux mettre en place un graphique qui montre cela, c'est un graphique qui rend les choses très claires, puis en parler. Donc vous avez le livre 1, livre 1, les usages de Yahweh sont environ 85 fois. L'utilisation de Yahweh est traduite par Seigneur. L'utilisation d'Elohim n'est que de 15 fois. Ici, dans le livre 4, Yahweh est utilisé 86 fois, et Elohim, Dieu, n'est utilisé que 14 fois. Dans le cinquième livre, Yahweh est utilisé 89 fois et Elohim n'est utilisé que 11 fois. Regardez maintenant le contraste. Ainsi, dans les livres 1, 4 et 5, Yahweh est principalement utilisé 6 contre 1. Mais dans le deuxième livre, où nous en sommes, remarquez que Yahweh n'est utilisé que 14 fois et qu'Elohim est utilisé 86 fois. La même chose avec le livre 1 de la troisième partie du livre, il est utilisé 13 fois pour Yahweh et 45 fois pour Elohim. Et ainsi, vous pouvez voir ces deux sections pourquoi ils les ont rassemblées et appellent cela l'éloïstique. Elohim, le nom Dieu, Elohim, Dieu est utilisé principalement dans le livre 2 et dans la première partie du livre 3. Et la deuxième partie du livre 3 retourne ensuite la situation dans l'autre sens, 2 contre 1, 31 à 16, Yahweh 31, Elohim 16. Et donc cela décrit simplement le psautier éloïstique et l'accent accru sur Elohim. Nous allons voir dans le tome 2, où nous en sommes. Il y a maintenant une autre preuve de cela. Et je veux juste en parler. Ce que nous avons dans les psaumes sont des psaumes parallèles et presque identiques, le psaume 14 et le psaume 53. Ce sont des psaumes presque identiques, mot pour mot, identiques. Psaume 14 et psaume 53. Le psaume 14 est dans le premier livre, le psaume 53 est dans le deuxième livre. Je veux donc comparer les deux psaumes pour voir s'il y a eu des changements. Et en effet, nous constatons que des changements ont été effectués. Et alors, suivez-moi à travers tout cela. Je vais vous guider à travers cela. Nous avons donc le psaume 14 comparé au psaume 53. Maintenant, le psaume 53 est dans le psautier éloïstique et le psaume 14 est dans le premier livre. Cela va donc favoriser Yahweh. Et donc, ce que vous avez, c'est qu'il est dit que le Seigneur regarde du ciel. Le Seigneur ici serait Yahweh. Nous traduisons le mot Yahweh par Seigneur. Maintenant, lorsque vous passez au chapitre 53, il est dit que c'est exactement le même verset. Il est dit que Dieu ou Elohim regarde du ciel. Ainsi, vous pouvez voir qu'il y a eu un passage très clair du nom Yahweh au nom Elohim, Dieu, dans ces deux versets qui sont exactement parallèles. Une chose similaire se produit ici au verset 14. Et qui n'invoque pas le Seigneur, Yahweh? Et puis, lorsque vous regardez le psaume 53, il est dit, qui n'invoque pas Dieu, Elohim? Encore une fois, vous voyez que Yahweh est utilisé ici pour le Seigneur et ici, Elohim est utilisé pour Dieu. Ainsi, vous voyez que le psaume 53 est cohérent. Ce n'est tout simplement pas aléatoire. La façon dont ces choses évoluent est cohérente. La même chose en 14:7. À propos, vous savez peut-être que dans le psaume 14 et le psaume 53, l'imbécile a dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. C'est dans les psaumes 14 et 53. L'insensé a dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Alors ici, quand le Seigneur restaure la forteresse de son peuple, vous pouvez voir que c'est Yahweh. Et à quoi vous attendriez-vous? Devinez ici. On pourrait s'attendre à ce que Dieu, Elohim, rétablisse la fortune de son peuple. Et ainsi, vous voyez le psaume qui est exactement parallèle l'un à l'autre. Et vous voyez avec quelle cohérence cela passe de Yahweh dans le premier livre à Dieu, Elohim dans le deuxième livre. Et c'est pourquoi on l'appelle le psautier éloïstique. Et c'est juste une chose fascinante. Nous examinons le tome 2. Et c'est donc l'une des caractéristiques de ce livre. Maintenant, nous en voulons un autre, je vais juste esquisser un flux de ceci du tome 1 ou du tome 2 plutôt. Une autre forme du contexte canonique dans le livre 2 peut être esquissée comme suit. Les psaumes 42 et 43 sont une introduction au livre 2. Ainsi, dans les psaumes 42 et 43, nous avons dit que 43 était un psaume orphelin. Ces deux psaumes se mélangent en pair à cause des refrains. Les refrains sont exactement les mêmes dans ces deux psaumes. Et donc ces deux-là forment une paire. Et puis la question qu'il pose ici, c'est d'exprimer le désir d'être avec Dieu comme un cerf haletant après l'eau. Alors, mon âme soupire après toi, ô Dieu, ce genre de choses. Il se souvient du peuple de Dieu en procession dans la foule festive. Mais maintenant, le psalmiste fait face à l'exil et aux eaux chaotiques sous le mont Hermon dans le nord, 42, 6, et est coupé de l'autel du temple de Dieu, étant deux fois raillé et hanté par la question. Et c'est la question majeure qui ressort des numéros 42 et 43. Il est nargué par l'ennemi. Où est ton Dieu? Et puis, en 42 et 43, son âme soupire après Dieu, mais pourtant il est là-haut dans le nord, là-haut, au-dessous du mont Hermon, et son ennemi le nargue alors. Et cette déclaration le hante même. Où est ton Dieu? Le psalmiste espère un retour à l'autel où Dieu, où le psalmiste pourra à nouveau louer Dieu avec la lyre dans la maison de Dieu. Psaume 43.4. Cet espoir guide et soutient le refrain trois fois répété du psalmiste, je cite, « Car je le louerai encore. Je vais encore le féliciter. » Trois fois, le refrain est séparé par environ six versets à chaque fois dans le refrain du psaume 42, 5, 11 et 43, 5, le verset 5, qui lit ces deux psaumes, 42 et 3 en une paire, tout comme le psaume 1 et le psaume 2. Étaient liés dans une paire de psaumes d'introduction. Ainsi, les psaumes 1 et 2 ont introduit le livre 1 et en fait les psaumes 1 et 2 ont introduit le psautier tout entier. Mais 42 et 43 ont introduit le livre 2 avec le même type de technique d'appariement qui a été utilisée dans 1 et 2. Et les psaumes 9 et 10 sont également liés ensemble par paire. Le psaume 44 suit et nous voulons reprendre cela avec le psaume 44 qui suit la pétition individuelle ou la plainte du couplet du psaume 42.3, 43 avec une pétition communautaire allant d'un, je cite, je, moi, mon à un nous, notre, notre. Ainsi, un est individuel, 42, 43 est une lamentation individuelle. Et puis ce que vous avez en 44, c'est ce qu'on appelle une lamentation communautaire. Nous, notre, à la première personne du pluriel plutôt qu'à la première personne du singulier, alors qu'ils déplorent la défaite devant leurs ennemis en raison du rejet et de l'absence de soutien divin. Ainsi, dans le psaume 42, nous lisons à la première personne. Laissez-moi voir si j'ai compris. Ouais, 42 nous lisons, pourquoi mon âme est-tu abattue? Je dis à Dieu, mon rocher, remarque la première personne. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Première personne du singulier. Il y a un mouvement significatif dans le psaume 44 vers la première personne du pluriel, nous, notre. Alors, nous y lisons, nous l'avons entendu de nos oreilles, ô Dieu, nos ancêtres nous l'ont dit, notre cœur ne s'est pas retourné. Nos pas ne s'étaient pas écartés de ton chemin, mais tu nous as écrasés et tu as fait de nous un repaire de chacal. Tu nous as recouverts d'une profonde obscurité. Donc, cela s'appelle une lamentation communautaire parce que cela vient, au lieu d'être je, moi, c'est une sorte de nous, notre, nous. Le psaume 45 passe ensuite à un mariage délicieux du roi et à l'éloge du roi dans le psaume 45. Maintenant, l'une des grandes questions que le gars introduit dans le livre 2 est qu'il est hanté par la question, nargué par l'ennemi. Où est ton Dieu? Ainsi, de 46 à 48, cela se déplace et se déplace ensuite version, le lieu où Dieu habite. Alors, où est ton Dieu? Maintenant, sa réponse au numéro 46 à 48 se déplace vers où est votre Dieu? La présentation de Sion, la cité de Dieu, chapitre 46, verset 4, chapitre 48, verset 1, 2 et 8 comme citation, le lieu saint où demeure le Très-Haut. Dieu est en elle. Dieu est en qui? Au sein de Sion. Et donc, c'est le chapitre 46, versets 4 et 5. Dieu règne sur les nations. Il ne se limite donc pas à Sion. Il règne sur les nations. Et donc, 47 a en quelque sorte un petit correctif ici. 46, Dieu règne sur Sion et 47 signifie fondamentalement que Dieu règnera sur toutes les nations. Et ainsi, depuis Sion, l'adoration de Dieu et l'exaltation de Dieu vont se déplacer jusqu'aux extrémités de la terre depuis Sion. Centrer sa présence sur sa montagne sainte, le mont Sion, et on l'appelle, je cite, la ville du grand roi, la ville du grand roi au chapitre 48, verset 2. Ainsi, le psaume 48 est l'un de ses grands psaumes. Si jamais vous êtes à Jérusalem, le psaume 48 est un grand psaume sur Jérusalem et Sion et sur le culte de Dieu qui y est centré. 46 se termine avec la déclaration divine, « Je serai exalté parmi les nations », qui trouve ensuite un écho dans la réponse finale du psalmiste en 47. Ainsi, 46 est relié à 47. Fin de 46, Dieu dit, « Je serai exalté parmi les nations ». Le chapitre 47 dit que les rois de la terre appartiennent à Dieu. Il est grandement exalté. Ainsi, cette exaltation de la fin de 46 est liée alors à l'exaltation de Dieu parmi les nations en 47. C'est depuis le temple que résonnent les louanges de Dieu jusqu'au bout de la terre. Psaume 48 verset 9. Sion, le motif de Sion continue jusqu'au chapitre 51. Et c'est ce qui est intéressant ici. Laissez-moi voir, je pense que j'ai ces versets. Je vais montrer la continuation du thème de Sion, pas seulement de 46 à 48, mais cela continue au-delà. Ainsi, au 51, à la fin du chapitre 51, le psaume pénitentiel de David, il est dit au verset 18, « Dans ton bon plaisir, fais prospérer Sion, bâtis les murs de Jérusalem. » Et ainsi, vous obtenez là une déclaration très forte à la fin du psaume pénitentiel de David, après avoir confessé son péché avec Bethsabée. Vous obtenez cette déclaration pour la construction des murs de Jérusalem. Ensuite, vous passez au chapitre 52, qui est une sorte de psaume vraiment négatif sur le péché, les méchants et les ennemis. Et puis à la fin, il passe du côté positif. Il dit que je suis comme un olivier qui fleurit dans la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu est alors le temple, bien sûr. Et puis le psaume 53 entre en jeu, ô que le salut pour Israël vienne de Sion. Donc là encore, vous avez l'hymne de Sion qui sort des 48 derniers temps et passe au 51, 52, 53, ce motif, et puis en fait 55 même ici. Ainsi, 55, 14 dit que cela reflète les processions à la maison de Dieu où, je cite, « Nous marchions parmi les fidèles, qui auraient lieu aux heures des fêtes lorsqu'ils montent et montent à Jérusalem. » Ainsi, vous pouvez voir que la réponse à la question de 42 et 43, « Où est votre Dieu ?» est répondue dans les chapitres 46 à 55 que Dieu est en Sion, que Dieu est en Sion et que ses adorateurs montent pour l'adorer là-bas, mais qu'il est exalté au-delà des nations. Et donc, cela remonte. Alors, très bien, c'est une grande partie du deuxième livre du psautier. Une fois que l'emplacement de Dieu dans le temple de Sion est établi, un psaume de sagesse suit, exposant l'impuissance de la richesse face à la mort alors que les riches périssent tout comme les bêtes dans le refrain des psaumes 49.12 et 20. Le psaume 50 revient au thème de Sion. 51.50 verset 2, où Dieu déclare son acéité, précisant qu'il n'a pas besoin de leur sacrifice. Pourquoi n'en a-t-il pas besoin? Dieu ne mange pas leur nourriture, leurs sacrifices ne sont pas de la nourriture pour Dieu. Au lieu de cela, dit-il, si je voulais de la nourriture, dit-il, je possède le bétail sur 1000 collines. Vous vous souvenez de ce grand chant qui était autrefois chanté dans les églises, le psaume 50, versets 9 à 13. Le grand psaume 51 pénitentiel de David après sa liaison avec Bethsabée clarifie en reconnaissant que vous n'aimez pas le sacrifice, sinon je l'apporterai alors qu'il présente son sacrifice d'un cœur brisé et contrit comme condition préalable pour s'approcher de Dieu. Le psaume 51 montre ensuite comment les justes pénitentiels confessent leurs péchés, offrant des sacrifices à partir d'un cœur nouvellement créé et purifié. Psaume 51.7 et verset 10. Le psaume 51 se termine par un appel à faire prospérer Sion et à construire les murs de Jérusalem, faisant un lien avec les hymnes de Sion dans les chapitres 46 à 48. Le psaume 50 s'adresse aux justes. En revanche, 52 à 53 décrivent le méchant à travers la figure de Doeg, un édomite meurtrier revenant au thème de la futilité de ceux qui ont confiance en leur richesse, en revenant au psaume 49 verset 20 et en développant davantage le fou qui dit dans son cœur, « Il n'y a pas de Dieu ». Psaume 53 et psaume 14 nous venions de faire la comparaison. Il y a maintenant un nouvel article publié par un homme nommé Botha dans le journal scandinave de l'Ancien Testament en 2017. L'article montre essentiellement comment 52 à 55. Nous avons donc parlé un peu comme le thème de Sion qui sort. 51 à 55, mais Botha a montré comment les 52 à 55 sont liés entre eux. Et donc, je veux juste passer en revue certains de ces arguments. Et ce qu'il fait, c'est qu'il dit que les numéros 52 à 55 sont liés entre eux par ce terme masquil ou un psaume d'instruction. Et ainsi, vous voyez comment les titres des psaumes 52, 53, 54, et je crois 55, oui, 55, sont des choses similaires. Donc ces quatre psaumes ils relient ensemble pour le directeur de la musique, un masquil ou un psaume d'instruction de David quand Doeg l'Édomite faisait ses vilaines choses. Psaume 53, titre du directeur musical selon Maala, un masquil de David. Vous voyez comment ceux-ci se mettent en parallèle pour le directeur musical encore une fois, pour le directeur musical avec des instruments à cordes cette fois, un masquil de David, un masquil de David, un masquil de David quand les Ziphites faisaient leurs vilaines choses. Pour le directeur musical encore, directeur musical avec instrument à cordes, un masquil de David. Encore une fois, quatre fois dans les titres de ceux-ci, les liant ensemble. Donc, cela va être un groupe de psaumes liés ensemble, ces quatre-là. D'accord. Maintenant, le psaume 52, avant de continuer, permettez-moi de développer davantage. Le thème de la vantardise et de la confiance dans la richesse et le pouvoir est manifeste dans le psaume 52.7. Voyez celui qui ne voulait pas prendre refuge en Dieu, mais qui avait confiance dans des richesses abondantes et cherchait refuge dans la richesse ainsi que par le contraste du psaume 55. Mais toi, ô Dieu, tu feras tomber les méchants dans le gouffre de la corruption. Les hommes assoiffés de sang et trompeurs ne vivront pas jusqu'au bout de leurs jours. Mais moi, j'ai confiance en toi. Et ainsi, le contraste entre ceux qui ont confiance dans les richesses et ceux qui ont confiance dans le Seigneur dans le psaume 52, verset 55. Les deux sont ensuite liés à la confiance, à la vantardise et à la richesse avec, de manière assez intéressante, Jérémie chapitre 9 verset 22 à 23. Les deux sont établir un lien entre les psaumes 52 à 55 avec Jérémie 9. Je pense que ce lien est très intéressant et qu'il devrait être poursuivi. La langue est une arme dangereuse. Dans le psaume 52, verset 2 à 4, il est dit que vous préparez la destruction. Ta langue est tranchante comme un rasoir, ouvrier de trahison. Puis dans le psaume 55, la même chose avec la langue. Son discours est doux comme du beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus apaisantes que l'huile, mais elles sont pourtant une épée dégainée. Cela est également lié au chapitre 9 de Jérémie, verset 7. Il semble donc y avoir un lien entre ces quatre psaumes et Jérémie 9. Je suggérerais que de nombreux psaumes, en particulier le psaume 1 et le lien avec Jérémie 17, ne doivent pas être négligés. De grands liens entre Jérémie et le psautier. Les psaumes 52 et 54 sont liés par une insistance finale sur le nom de Dieu dans les chapitres 52, 9, 9, 54, 6. Et le psaume 54 et le psaume 55 commencent par un appel à Dieu pour qu'il écoute. 54.2 et 55.1 et 2. Cette chaîne de psaumes masquille 52 à 55 est suivie d'un groupe de psaumes de titre Miktam et voyez si nous avons cela ici. Miktam 56 à 60, il utilise ce mot Miktam. Nous ne savons pas vraiment ce que signifie le mot Miktam, croyez-le ou non. Donc ils ne le traduisent pas. Ils l'ont simplement mis dans le texte car il s'agit d'un Miktam. Le directeur musical du deuxième recueil davidique, et c'est dans ces Miktam se trouve dans les psaumes 56 à 60. Donc 52 à 55 sont les Masakil pour l'instruction. Les psaumes 56 à 60, ceux-là sont tous liés par ce terme Miktam, dont on ne sait pas vraiment ce qu'il signifie. Donc, il l'appelle simplement un Miktam. Passer au psaume 63 est peut-être une réponse à son absence perturbée et divine dans les chapitres 42 et 43, qui passe maintenant à « Je t'ai vu dans le sanctuaire ». Donc, dans le premier cas, il y a l'absence de Dieu. Où est ton Dieu? Il se rend à Sion dans les chapitres 46 à 52 ou 53. Et maintenant, au chapitre 63, il dit, « Je t'ai vu dans le sanctuaire jurant de te louer aussi longtemps que je vivrai les mains levées. » Psaume 63 verset 2 et verset 13 et suivant. Sans passer par tout le reste du livre 2 des psaumes précédents, la pétition, la lamentation et la plainte prédominent. À mesure que l'on se rapproche de la fin, les hymnes de louange des psaumes 65 à 68, tout comme le psautier. Et maintenant, viens et laisse-moi comprendre ça un peu. Donc, fondamentalement, nous avons commencé avec des hymnes de lamentation communautaire, nous, notre, ou de lamentation individuelle, je, moi, mon. Et maintenant, fondamentalement, ce que nous avons, vers la fin du livre, ce sont les hymnes. Et donc, 65 à 68 sont les hymnes. Les hymnes vont être la oua et puis nous avons dit, psaume 71 et le faible David, un roi. Et puis le faible David dans 71 est suivi par la force de Salomon. Et c'est très similaire à un roi 2 à 3, où le faible David avec Abishag et toute la situation là-bas avec Salomon devenant roi et étant le trône de Salomon et de son frère Adonijah et la lutte qui se produirait là-bas. Mais David était faible. Cette même faiblesse face à la force de Salomon est visible à la fin du livre 2. Et donc, c'est là un lien assez intéressant. Et cela aussi, cette connexion, le livre 2 découle de la lamentation initiale de l'absence de Dieu et de l'éloignement du lieu de louange, psaume 42-43, jusqu'à Sion, la cité de Dieu, 46 à 48, jusqu'à la sagesse, chapitre 49, et ensuite plonge dans les sacrifices, psaume 50 et 51 et le péché dans 52 et 53. Il se lamente dans 54 à 64 avec une paire de psaumes soyez miséricordieux dans 56 et 57, les deux commencent, soyez miséricordieux envers moi. Et un écho de la soif de Dieu, le motif de la soif de Dieu tiré de 42 puis du 63, la soif de Dieu comme un cerf haletant après les livres d'eau. Il passe ensuite à travers plusieurs hymnes de 65 à 68. Et le livre 2 se termine par une transition de l'âge faible du psalmiste David, psaume 71, comme dans un roi 1, au vibrant roi Salomon dans le psaume 72 et également similaire à un roi 2 et 3. Le livre 2, qui va du psaume 42 au psaume 72, se termine d'une manière caractéristique de nombreux livres des psaumes avec une double louange et un double amen. Ceci conclut les prières de David, le fils de Jessé. Et donc, il y a un mouvement dans le livre 2 comme il y en a dans tout le psautier. Dans tout le psautier, ils mettent en avant les lamentations. Et de nombreux psaumes du premier livre, des chapitres 3 à 41, sont pour la plupart des lamentations davidiques. Et pourtant les psaumes se terminent, psaume 145 à 150, ça se termine par des louanges. Ainsi, cela commence par des lamentations et tout le psautier se termine ensuite par des louanges. Le tome 2 aussi. Il commence par ses lamentations. Où est ton Dieu? Il va à Sion et se termine ensuite par ses hymnes de louanges vers la fin du livre 2. Et puis vous avez David, cette transition entre David et Salomon qui a lieu. Et puis le livre se termine, les prières de David, fils de Jessé, sont terminées. Et puis le livre se termine par un éloge et un double amen. C'est donc le flux de lamentation et de louange dont nous avons parlé. Et donc, je veux juste revenir en arrière et revoir ce que nous avons fait et ensuite nous arrêterons cela. Nous avons commencé par noter que le livre des psaumes s'appelait Tehilim. Et ce Tehilim vient du mot halal, qui signifie Alléluia, comme la louange du Seigneur. Ainsi, le titre du livre des psaumes vient de halal, qui signifie louange. Et nous en avons parlé. Nous avons parlé des cinq livres des psaumes ou du psautier qui correspondent aux cinq livres de Moïse dans la Torah, le Pentateuque. Et donc, nous avons le livre 1, chapitre 1 à 40, chapitre 2, 42 à 72. C'est sur celui-là que nous allons nous concentrer sur les louanges. Et puis le livre 3, 73 à 89, le livre 4, 90 à 106, le livre 5 le conclut avec 107 à 150. La louange, Amen, et les prières de David sont terminées, et la louange est Amen. Et chacun de ces livres indique que c'est terminé. Les titres du livre 2, nous avons ce qu'on appelle le deuxième recueil davidique, les psaumes 51 à 70. Cela s'appelle le deuxième recueil davidique. Le premier recueil davidique est celui des psaumes 3 à 41. Les fils de Corée se trouvent dans les chapitres 42 à 49. Et il se termine par un psaume de Salomon après un David affaibli dans le psaume 71. Ainsi, le psautier éloïstique dont nous avons discuté était un passage du nom Yahweh au Seigneur dans les livres 1, 4 et 5 à Elohim favorisé dans les psaumes 42 à 83. Et nous avons comparé le psaume 14, l'insensé a dit dans son cœur au psaume 53. Qui dit la même chose, mais le nom passe de Yahweh à Elohim dans le psautier éloïstique. Le psautier éloïstique est notre livre 2, verset 40, chapitre 42 à 83. Il y a donc eu un changement de nom là-dedans. Le flux narratif du livre va de la lamentation à la louange et à la question de savoir où Dieu nous conduit à Sion et nous conduit de là jusqu'aux extrémités du monde. Le lien entre le psaume 52 et le psaume 53 dans l'article de Botha est masquil, la langue comme arme. Et ces trois psaumes s'enchaînent, quatre psaumes s'enchaînent très bien ici. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Notre prochaine présentation présentera les trois personnages principaux du livre des psaumes et concentrera également particulièrement notre attention sur ces trois personnages et comment ils s'intègrent dans le livre 2 du psautier. Et le premier sera notre ennemi. Et donc, l'ennemi, fondamentalement, l'ennemi se moquera et essaiera de piéger. Il fera honte, déshonorera et essaiera de tuer, de détruire et utilisera sa langue pour détruire. L'ennemi sera là très fortement dans le livre des psaumes. Et puis le psalmiste va plaider parce qu'il se sent impuissant devant l'ennemi. Le psalmiste deviendra le suppliant qui s'adresse à Dieu et dit, « Dieu, s'il te plaît, aide-moi. » Vous avez donc l'ennemi auquel fait face le psalmiste qui est ici maltraité. Et puis, en grande partie, Dieu est représenté comme un roi. Et je veux développer la prochaine fois que nous développerons ces trois choses, en nous concentrant particulièrement sur la métaphore de Dieu en tant que roi. Et cette métaphore est essentielle pour comprendre le livre des psaumes. En effet, cette métaphore est essentielle pour comprendre l'Ancien Testament. Donc, ces trois personnages jouent un grand rôle et nous les examinerons la prochaine fois. Merci. Nous avons hâte d'être avec vous dans une autre présentation. Il s'agit du docteur Ted Hildebrand dans son enseignement sur la louange de Dieu dans le deuxième livre du psautier. Il s'agit de la première séance, le contexte canonique du livre 2 du psautier.